Considérez les autres au-dessus de vous-même. C'est, ou bien supérieur à vous, selon les traductions. C'est ce verset qui fait partie de la lecture biblique de ce matin. Et en le lisant, je me disais, Paul, attends, ça ne me concerne pas. Après 30 ans de ma conversion, des campagnes d'évangélisation, des cours bibliques, des études bibliques, des cours pour couple, des cours alpha, je suis un chrétien bien, mais sûrement pas au-dessous des autres. Il y a quelques jours, j'ai reçu une photo par email d'un non-chrétien d'ailleurs, qui était absolument horrible, que je pourrais pas vous montrer d'ailleurs, qui montrait des chrétiens brûlés pour leur foi, des corps calcinés. La photo n'a pas été prise il y a 2000 ans sous Néron, lorsque les premiers chrétiens sont morts, mais en Égypte, en janvier 2012. Et du coup, j'avais honte. J'avais honte parce que ces frères et sœurs, parce que ça c'est vraiment nos frères et sœurs, sont morts pour leur foi. Ils n'ont pas hésité à donner leur vie. Qui suis-je et quelle est ma foi par rapport à la leur et à leur sacrifice? C'est facile d'être chrétien quand tout va bien, et puis surtout quand on est libre de venir, à part le froid ce matin. On n'a aucune entrave pour participer à ce culte. Par contre, il y en a des millions dans le monde qui, tout comme les premiers chrétiens, sont prêts à sacrifier leur liberté, voire leur vie, pour leur foi en Jésus-Christ. Vous connaissez sans doute l'association des Portes Ouvertes, qui publie régulièrement la carte du monde sur laquelle elle montre des pays où les chrétiens sont persécutés pour leur foi. Et si vous regardez, leur nombre est effarant. Ainsi, pour me rappeler, encore une fois, les paroles de Paul, je n'ai qu'à regarder cette carte. Et d'ailleurs, qui suis-je pour juger l'état spirituel de mon frère? Que chacun donc considère les autres au-dessus de soi-même. Nous allons lire d'abord le texte, nous l'avons déjà abordé au début. C'est donc l'épître aux Philippiens de Paul, dans le chapitre 2, versets 1 à 11.
Le Christ vous rend plus fort. Son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes plein de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simple et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il se dépouillait lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Alors l'apôtre Paul écrit à une jeune église qui est dans une localité, Philippe. Vous pouvez chercher tant que vous voulez sur la carte, vous ne la trouverez pas. Enfin, c'est une ville qui n'existe plus. En fait, il était parti d'Antioche, qui est une localité qui est dans tout à l'extrémité de la Turquie, à l'extrémité est. C'est une région où les Syriens considèrent que ça devrait leur appartenir. Mais enfin, bon, pour le moment, c'est en Turquie. C'était un petit peu le centre névralgique des églises, des premières églises chrétiennes. Et c'est la ville d'où il est parti pour ses différents voyages missionnaires. En fait, dans son deuxième voyage missionnaire, c'est juste après cette assemblée de Jérusalem où ils avaient pris une décision fondamentale pour la vie des églises, à savoir qu'on pouvait être chrétien sans devoir passer par le filtre de tous les rites juifs. Et puis, Paul est parti après ça. Il a commencé à les retrouver toutes sortes d'églises qu'il avait rencontrées dans son premier voyage missionnaire, et là il traverse un peu toute la Turquie. Il arrive, après avoir visité toutes ces églises, il arrive à Troas, ça c'est à l'extrémité ouest de la Turquie. Juste, voilà. Et on est là au bord de la mer, et puis il a une vision, c'est la vision du Macédonien, pour ceux qui se souviennent, il a une vision de quelqu'un de Macédoine qui l'appelle à venir prêcher l'évangile. Alors le voilà qui s'embarque pour un voyage qui fait environ 300 kilomètres, il y a 2-3 villes dans cette région, et puis il arrive à Philippe. Et c'est là qu'il va, en fait, en très peu de jours, parce qu'il ne va pas pouvoir rester bien longtemps, fonder cette église de Philippe. Il la fonde d'ailleurs à partir de personnes qui étaient juives ou qui étaient des gens qui étaient, disons, qui étaient adeptes du judaïsme sans être forcément juifs de race, hein, si le mot veut dire quelque chose. Enfin bref, il a trouvé des gens qui d'ailleurs n'avaient pas de synagogue, hein, les juifs dans cette ville. Donc il les a trouvés au bord d'une rivière, il a trouvé une dame qui s'appelait Lydie, qui était une marchande de pourpre, et puis là autour s'est créée une église. Alors c'est caractéristique de cette église, là c'est la première en Europe. Hein, donc quelque part c'est un peu notre origine, hein, l'église européenne. Et puis c'est une église avec laquelle Paul a construit des relations sentimentales très particulières. C'est la lettre aux Philippiens, c'est celle qui a la plus la forme d'une vraie lettre à des gens qu'on connaît bien. La seule église dont il a accepté des dons financiers pour soutenir. C'est quelque chose qui apparaît dans le reste de l'épître. Donc il est resté très peu de temps là, puis là on était donc en Grèce. Hein, la Macédoine, après il est allé jusqu'à Corinthe, alors ça c'est une ville qui est toujours sur la carte, puis il est resté longtemps, il est resté une année et demie. Et puis après ce voyage, il est revenu à Jérusalem, puis à Antioche, comme pour ses autres voyages. Alors cet épître, il l'a probablement écrit, on n'est pas sûr, mais c'est ce qui est le plus probable, pendant le voyage suivant, où il a dû se trouver en prison quand il était à Éphèse. Donc c'est pas longtemps plus tard, hein, c'est moins de 10 ans plus tard. Voilà. Il écrit alors qu'il est en prison. Donc les persécutions, voilà, on a fait allusion à les persécutions d'aujourd'hui. Paul en a vécu pas mal. Et là, il écrit cette lettre alors qu'il est en prison, qu'il sait pas trop ce qu'il attend. Il risque sa vie. Il a pourtant la conviction qu'il a encore une mission et qu'il va être libéré. C'est là d'ailleurs qu'il dit les paroles. Moi, j'ai un peu de peine à. Il dit mourir m'est un gain. Hein, ça c'est pas évident. Hein, je sais pas si pour vous c'est facile, mais pour moi c'est pas évident ça, ce texte-là. Et puis dans son épître, en général, il a deux préoccupations qui ressortent. L'une, c'est certaines déviations qui risquaient un peu de démolir cette église. Alors, on ne sait pas trop desquelles il s'agit. Hein. Et puis, l'autre, c'est l'histoire de conflits qu'il y avait dans les églises. D'ailleurs, on n'aurait peut-être pas beaucoup d'épîtres dans le Nouveau Testament s'il n'y avait pas eu tous ces conflits dans les premières églises. Enfin, c'est... Voilà. Des conflits qui... C'est un petit peu l'arrière-plan de ce qu'il nous dit, hein. Considérer les autres comme meilleurs ou comme supérieurs à vous-même, c'est à propos des conflits dans l'Église qui raconte ça. Des conflits qui apparaissent assez en clair parce qu'au chapitre 4, il fait allusion à deux personnes qui ne pouvaient pas se voir en peinture. Hein. Alors c'était deux femmes qui étaient des personnes qui avaient activement participé au ministère de Paul. Hein, donc c'était pas n'importe qui, c'était sûrement des personnes qui avaient contribué à fonder l'Église puis qui ne pouvaient plus s'entendre. Alors il les exhorte de s'entendre, puis c'est intéressant parce qu'il exhorte aussi quelqu'un de les aider. Donc c'est pas non plus d'aujourd'hui qu'on a besoin de médiateurs quand on n'arrive plus à s'entendre. Alors voilà un peu le contexte. Mais vous pourrez dire, lui aussi il a eu ses conflits, Paul. Il n'était peut-être pas forcément lui quelqu'un de très facile à vivre, parce que justement, au moment de partir pour ce deuxième voyage au cours duquel il a fondé l'église de Philippe, ben ça a commencé par un conflit. Parce qu'il voulait, lui, il devait partir avec Silas. Silas voulait prendre un certain Jean-Marc. Paul voulait pas, il trouvait qu'il n'avait pas sa place parce que, voilà, etc. Donc, ils se sont tellement mal entendus sur ce compagnon à prendre ou à ne pas prendre qu'ils se sont séparés, qu'ils sont partis en deux équipes. Mais il y a quand même quelque chose à entendre de ce qu'il nous dit dans ce texte que cette première partie que nous a lue Hélène, qu'on pourrait appeler l'esprit d'humilité. C'est qui est donc sur un arrière-plan de relations conflictuelles. Il nous le fait une espèce de recommandation qui est en cinq points, qui peut être dit en différents mots, mais pas d'esprit de rivalité, pas de désir de briller, d'être humble, de regarder les autres comme supérieurs, ou dans la traduction qui a été lue par Hélène, c'était, qui était le français fondamental, c'était être regarder les autres comme meilleurs que soi, et puis ne pas chercher son intérêt, mais chercher l'intérêt d'autrui. Alors, juste quand même, pour prendre conscience à quel point c'est pas si facile et si courant que ça, je sais pas si ça vous arrive de regarder la campagne électorale française. Essayez d'imaginer qu'on relook cette campagne présidentielle avec ces principes-là. Hein? Pas de rivalité, pas de désir de briller, humilité, considérer l'autre comme supérieur et puis chercher l'intérêt de l'autre. Je ne sais pas si vous arrivez à organiser une campagne présidentielle avec ça. Mais moi, je trouve que ce texte, ça ressemble beaucoup au sermon sur la montagne, à l'enseignement de Jésus sur la non-violence. Mais après tout, on pourrait aussi le prendre comme une morale un peu écrasante. C'est vrai que dans notre arrière-plan évangélique, enfin, ça dépend peut-être des générations, mais on peut avoir une éducation où on tend, à cause de cette humilité évangélique, à se dévaloriser systématiquement. Au point que, et c'est vrai que moi ça évoque des souvenirs, ça m'est déjà arrivé de le dire ici, où on n'est même plus capable de recevoir un compliment, parce que quand on reçoit un compliment, on est fier de le recevoir, mais comme on n'a pas le droit d'être fier, on a mauvaise conscience de cette fierté, hein, puis on enclenche un mécanisme qui fait qu'on est gêné. Puis il faut aussi apprendre finalement à recevoir une appréciation de quelqu'un avec simplicité. Moi, je crois pas que c'est le sens, c'est de se dévaloriser soi-même. Parce que quand Paul dit de regarder les autres comme supérieurs à soi-même, il n'a pas dit de se regarder soi comme inférieur. Donc, c'est pas que moi, je vais m'inférioriser mais c'est plutôt que je vais reconnaître dans l'autre des dons que je n'ai pas. Je vais reconnaître dans quelqu'un d'autre quelqu'un dont je peux apprendre quelque chose. Parce que lui, il sait des choses que je ne sais pas, il sait faire des choses que moi, je ne sais pas faire, il a ses dons particuliers, et chacun a sa valeur. Je peux toujours apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre, qu'il soit instruit ou qu'il ne soit pas du tout instruit, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux, qu'il soit manuel ou intello. On a toujours quelque chose à apprendre de l'autre. Donc il ne s'agit pas de se dévaloriser, mais il s'agit de reconnaître la valeur de l'autre et de mettre l'autre en valeur. Alors cette espèce d'attitude fondamentale, ce qui est intéressant, c'est qu'après, ce n'est pas une simple morale, parce que c'est relié, il le relie à la personne du Christ. Et je me suis dit dimanche dernier, quand on parlait de connaître le Christ, de connaître Dieu, c'est aussi à ça que ça amène. Ça nous amène à transformer nos relations. Paul rappelle sans doute un hymne, un cantique, une chanson, me disent les jeunes, de l'époque, qui était certainement connue parmi les chrétiens, qui évoque le parcours du Christ. Jésus est de condition divine, mais il renonce à tout privilège, il renonce à se faire de force légale de Dieu. Et ce, jusqu'à la croix. Ce qu'il y a, c'est que c'est par ce chemin-là que Jésus nous révèle qui est Dieu. C'est ça la signification très profonde de la chose, c'est que Dieu, la vraie image de Dieu, elle se révèle à travers ce parcours-là du Christ. Ce qui veut aussi dire que la mort du Christ sur la croix, c'est pas seulement le pardon des péchés, mais c'est comprendre quelque chose d'essentiel sur la nature même de Dieu. On a toutes sortes de représentations de Dieu. Quelque part, Dieu est beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Mais Dieu a choisi de se révéler à travers le visage du Christ dans ce parcours-là. Ça nous dit donc quelque chose d'essentiel sur Dieu et sur ce que nous sommes appelés à être. Alors j'aimerais là faire un petit détour par la création parce que je vois quand même un petit lien avec une rencontre où j'ai eu le privilège d'assister il y a 15 jours à Paris du réseau des scientifiques évangéliques où on abordait la question de l'origine de l'homme. Et puis c'est vrai que sur le plan scientifique, il y a beaucoup de questions très difficiles. Hein. Il y a un constat du point de vue scientifique et biologique, un constat qu'on peut faire, c'est une continuité entre l'homme et l'animal. On n'essaye pas de, si vous voulez, d'éviter la chose, on admet. Et alors il se pose une question, qu'est-ce que c'est que le propre de l'homme? Question que les philosophes se sont tout le temps posées. Mais je ne sais pas, vous, juste comme ça, à froid, si on vous pose la question, c'est quoi le propre de l'homme? Vous diriez quoi? Pardon? Là? Conscience de soi, oui. Le bien et le mal, oui. Oui. La relation avec Dieu. Voilà, alors on voit des choses intéressantes, c'est que, en fait, ce qu'on essaye de dire sur un plan biologique, on a dit la conscience de soi, c'est vrai, mais il y a en tout cas des morceaux de conscience de soi qu'on découvre chez des animaux. Des choses que vous n'avez pas dit maintenant, mais on dit l'intelligence ou la station debout, ou voilà, beaucoup de choses qu'on peut imaginer. Qu'on a imaginé, c'est jamais complètement le propre de l'homme parce qu'il y a des précurseurs chez des animaux. Et finalement, le message de la Bible, il arrive à ce qu'Armand a signalé tout à l'heure, créé en image de Dieu. Est-ce que ce n'est pas finalement ça qui nous fait humains, plus que n'importe fait qu'on serait plus ou mieux, ou voilà. On a la parole, on a toutes sortes de choses, mais créé en image de Dieu. Parce qu'en fait, tout ce que les philosophes ont proposé, quelque part, ça ne permet pas vraiment de nous faire humains. Les animaux, ils ont une organisation sociale, en général assez structurée, et puis qui est structurée autour de quoi ? La plupart du temps, il y a des animaux dominants, il y a des individus dominants, même plus précisément, c'est souvent des mâles dominants, pas toujours, mais dans la majorité des cas. Donc la société animale fonctionne comme ça. Mais nous qui sommes créés à l'image de Dieu, on est appelés à autre chose. À autre chose qui nous permet de voir dans l'autre une créature en image de Dieu et donc à lui accorder une valeur tout autre que ce qui est le cas pour les animaux. Et quelque part, en filigrane, il me semble que le texte de Paul évoque aussi le récit de la Genèse. Pourquoi ? Parce que quand il dit que le Christ n'a pas cherché à arracher de force d'être égal à Dieu, ben c'est juste un peu l'envers d'Adam dans le deuxième récit de la création. Le péché fondamental d'Adam, c'était de se laisser séduire par celui qui lui disait qu'en mangeant un fameux fruit, voilà, il allait devenir comme Dieu. Donc Adam, qui n'a pas la condition divine, croit qu'il peut l'obtenir. C'est ce péché d'orgueil est un peu le péché fondamental qui nous affecte tous. Alors que Jésus-Christ, qui est de condition divine, ne cherche pas par force à être l'égal de Dieu. Donc c'est juste l'inverse. Alors, je reviens à cette attitude fondamentale qui nous est proposée. Juste pour qu'on se pose quelques questions. Alors là, je vais poser des questions comme ça, mais je ne vais pas tellement donner les réponses, parce que les réponses, on est obligé de les chercher dans la vie concrète. Alors, est-ce que c'est applicable? Est-ce que c'est réaliste? Alors, c'est vrai que Paul s'adresse à une église. Donc, le premier lieu où nous sommes appelés à vivre ces relations-là, c'est en église. Mais l'Église, c'est pas... Ce qu'on vit en Église, c'est en fait un espèce de laboratoire pour transformer les relations humaines que nous vivons tous les jours et celles de la société. C'est pas juste pour vivre sur un petit nuage entre nous. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas évidentes. Je sais pas si on peut, est-ce qu'on peut envoyer des enfants à l'école en leur disant que, voilà, qu'il faut qu'ils regardent les autres comme supérieurs, qu'ils cherchent pas à se défendre, qu'ils se laissent faire? Oh, non, ça va pas. Voilà. Alors, là, l'éthique du sermon sur la montagne, voilà, est-ce que ça s'applique comme ça? C'est pas si évident, je crois que on s'en rend bien compte. Celui qui ne se défend pas, si c'est qu'il ne sait pas se défendre, c'est une simple attitude de faiblesse. Je crois que ce que Dieu demande, ça va plus loin que ça. C'est celui qui, à un moment donné, aurait la capacité de se défendre, mais qu'il renonce avec un certain sens. Alors bon, on n'a pas le temps d'approfondir ça, mais je crois que c'est intéressant d'y réfléchir. Parce que je crois quand même que ces principes de relation qui sont basés sur l'humilité et la valeur qu'on donne à l'autre, c'est quelque chose qui est fait pour s'appliquer dans notre quotidien, dans la famille, dans notre lieu de travail, dans les relations qu'on a, je ne sais pas, entre prof-élève, si on est prof ou si on est élève. Et puis, je poserai même une question plus loin. Est-ce que ça s'applique qu'aux relations courtes, c'est-à-dire qu'aux relations qu'on a avec des personnes dans notre quotidien, ou bien est-ce que ça a quelque chose à dire aussi au niveau des structures de notre société? Alors, naturellement, moi, je crois que oui, Mais c'est sûr que c'est nettement plus complexe, parce que c'est pas quelque chose qu'on va dire, on va prendre ses principes et puis on va refaire l'économie sur ces principes-là. On peut pas fonctionner comme ça. Mais je crois que ça a quelque chose à nous dire. On reconnaît d'ailleurs assez largement maintenant, hein, même le président du forum de Davos reconnaît que notre système économique a pour une bonne part part à la dérive, dans la mesure où ça fait plus le bonheur des êtres humains, quoi. C'est bon, je voulais pas développer ce sujet maintenant, mais je crois que les principes de l'Évangile ont des choses à nous dire, des interpellations pour ça. Simplement, j'aimerais que, voilà, je propose qu'on puisse se laisser inspirer par ce texte dans nos situations quotidiennes, hein, en reconnaissant la valeur de l'autre, et puis en lui faisant savoir ou sentir aux autres qu'on reconnaît leur valeur, à découvrir ce qu'on pourrait peut-être apprendre de telle autre personne, qu'on n'apprécie pas forcément tellement, mais peut-être qu'on peut apprendre quand même quelque chose. Voir dans chacun, hein, que ce soit notre conjoint, notre collègue de travail, tel élève insupportable ou tel patron insupportable, de voir aussi l'image de Dieu. Moi, je crois qu'il y a une puissance de transformation de nos relations qui est dans cette recommandation de Paul à l'image du Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.